What is this, Connor?
Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Great easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filomena.
Filomena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Papa fa che dice?
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, à Cinémascope, cette semaine encore pour parler de cinéma, de films à l'affiche dans le sud de l'Ardèche. Quatre films au programme cette semaine avec Cinque Secondi de Paolo Virzi. C'est Julien qui viendra nous en parler. Bonjour Julien.
Bonjour.
Il y aura Histoire parallèle d'Asghar Farhadi, dont je vous dirai deux mots. Et puis ensuite, L'Évangile de la Révolution de François-Xavier Drouet, qui est passé en présence du réalisateur au navire cette semaine. C'est encore Julien qui nous en parlera. Et puis L'Objet du désir, le dernier opus d'Agnès Jaoui, c'est René. Bonjour René, qui nous en causera.
Bonjour.
Voilà, tu as vu ça donc hier soir et donc c'est tout frais.
Absolument.
Prêt à... Bon, Julien aura quelques annonces également à faire concernant évidemment les projections villageoises de la Maison de l'Image, la tournée, quelques temps forts à nous annoncer. Nous allons commencer donc, comme je le disais, par Cinque Secondi. 5, 4, 3, 2... Un, sept.
Là, les paladines à poire claque.
Voi mi avete garantito che a Villa Guelfi non ci sarebbe stato nessuno. Se no io questo posto in affitto non l'avrei mai preso.
E te come ti chiami? Io Matilde.
Piacere.
Guarda, i germogli qua.
Ma c'è un padre o questa pancia ha germogliato da sola?
Ma tanto un padre non serve.
When I was young, younger.
Ma se sei un avvocato che fa cose buone, perché ti sei rintanato e sei così triste?
I never saw...
Racconta la tua storia, ti prego.
Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
Non ho bisogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi al mattino quando mi sveglio mi si chiude il respiro qua.
Oh, scendi da qua, subito! Dai, sali, va.
Andrea pure, è lei che dice.
Che dice, che dice?
Che è patriarca.
Ma vai, cammina, va, va.
Dai,
mio vicino!
Uno, due, tre. 4, 5.
Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
Voilà, au terme du décompte, l'histoire d'un Toscan un peu rocailleux qui s'aperçoit que dans une villa voisine, eh bien, des jeunes viennent reprendre en main apparemment une exploitation viticole. C'est ça en gros. Comme c'était en italien, on attend, Julien, que tu nous démêles un petit peu le synopsis.
Alors, pas en italien, j'avais
justement
ici. Mais en fait, ça c'est une partie de l'histoire. L'histoire est beaucoup plus complexe et profonde que celle-là. Évidemment, dans ce film, vous allez avoir à des moments où vous allez beaucoup rire, enfin assez drôle, puisqu'il y a une confrontation de générations entre un homme, on va dire, qui a la cinquantaine et des jeunes qui, comme tu le disais, reprennent un lieu et le rendent à la vie, puisqu'il est abandonné pour des causes juridiques. Voilà, il est un peu bloqué, donc il réouvre les portes et il cultive et ils le font vivre. Et donc, du coup, il y a à la fois cet homme qui est lui tout seul, très bougon, mais pourquoi ? Parce qu'on va le comprendre. Il a été, il y a eu un drame dans sa vie, on va dire. Je rentre pas dans les détails. Et en face, cette jeunesse, et c'est la vie en fait. Il y a une espèce d'énergie. Et les deux, enfin, je trouve le film assez, enfin, très réussi parce qu'il arrive avec subtilité, ce qui est. On a besoin de subtilité aujourd'hui, à se faire se mélanger, se rejoindre ces deux mondes. Et du coup, ça pose plein de questions et c'est passionnant aussi au niveau social, sur on va dire la société actuelle, comment on vit, les générations, les chocs, voilà. Et ça, c'est une dimension du film. L'autre dimension aussi, c'est une dimension aussi qui va toucher à la fois sur le deuil, sur le voilà, sur il y a plein de sujets. Donc je veux pas déflorer le film, donc je vais pas vous rentrer de voilà. Mais c'est à la fois un film qui est à certains moments souriant, plein de vie, et à la fois c'est un film profond dont vous allez sortir remué. Voilà, moi c'est un très beau film italien. Il y a des acteurs qui sont absolument géniaux dans leur rôle. On va retrouver Valeria Buruni Tedeschi qui justement a un rôle là-dedans, mais il y a aussi cette jeune femme que vous avez peut-être vue dans d'autres films qui est Galatea Bellucci, je ne sais pas, voilà, qu'on a vu déjà au cinéma en France. Et voilà, j'en dis pas plus parce que j'espère que vous allez aller le voir.
Le voir où ?
Voilà, alors le voir.
Parce qu'il n'est pas au navire, ça fait partie donc des petites annonces que tu voudrais faire.
Alors, vous pouvez le voir mardi 9 juin à Tueil.
Mardi 9 juin à Tueil.
À 20h30. Et vous pourrez le voir le samedi 13 juin à Valgorge. Alors pourquoi ? Alors petite annonce que je veux faire, c'est qu'à Valgorge, on va essayer de faire en attendant les rencontres des cinémas d'Europe, l'idée c'était de montrer deux films, un qui pourrait être programmé dans ce cadre-là, puisqu'on va dire qui est dans l'esprit des rencontres, ça va être celui-là, et un autre que vous avez vu, qui était en avant-première, donc il y a eu peu de séances pendant les rencontres, et qui s'appelle « Le garçon qui faisait danser les collines ». Et donc, on va avoir une double séance, effectivement, à 18h et une à 21h à Valgorge. Samedi 13 juin, tout à fait.
D'accord. À noter, donc, ces rendez-vous un petit peu particuliers et donc, à première vue, riches.
Et on peut manger un bout sur place. Et Valgorge, c'est très, très beau. Vous pouvez aller à la rivière avant. Vous pouvez vous balader sur le plateau.
Même aller à la rivière après.
Voilà. Vous pouvez aussi faire un bain de minuit, tout à fait.
Voilà. Faire de la rando, tout.
Voilà, non. Du coup, ça peut vous faire un bain très, très beau samedi. Et puis, finir là-dessus, vous allez voir, les deux films sont des petits bijoux.
Très bien. Un avant-goût des rencontres des cinémas d'Europe, donc, d'une certaine manière, ou un après-goût. Nous continuons avec les histoires parallèles de Asghar Farhadi.
L'autre jour, je l'ai revue. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
Comment tu fais pour écrire ces histoires ? Comment tu les inventes ?
Pourquoi tu veux savoir ?
Adam, enchanté.
Pourquoi t'as fait ça ?
Je voulais la connaître.
Ça devient chaud, là.
Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
Ça n'a rien à voir avec nous, ces conneries.
Parce que ça n'a rien à voir avec vous, pourquoi vous êtes si énervé ?
Ça vient pas de nulle part, tout ça. Je suis désolé, excuse-moi.
Qu'est-ce roman de merde, là, hein ? Tu sais ce que j'en pense ?
Mais arrête !
Les gens se comportent plus comme ça aujourd'hui.
Ah oui, ils se comportent comment ?
T'approches pas de moi !
Histoire parallèle qui, comme son titre l'indique, nous raconte deux histoires en parallèle et elles sont géographiquement en parallèle, ces histoires, puisque ça se passe à Paris, dans deux immeubles qui se font face sur un boulevard parisien assez typique. Dans un de ces immeubles, Isabelle Huppert écrit. Elle prépare aussi son déménagement définitif et elle est aidée en cela par un jeune homme qui sort de prison et qui l'aide à débarrasser ses quantités industrielles de livres. Isabelle Huppert écrit et elle écrit en s'inspirant de ce qui se passe dans l'immeuble en face, dans l'appartement où elle a grandi, où a vécu sa mère. S'est installée une petite entreprise de doublage de cinéma. Et c'est en observant Pierre Ninet, Vincent Cassel et Virginie Efira qui travaillent au montage de films, à la sonorisation de films, plus exactement, c'est en les observant qu'elle s'inspire de leurs us et coutumes pour écrire son histoire romanesque qu'elle va donner à lire à son éditrice, jouée par, très brièvement, Catherine Deneuve. Ce film, comme je le montre là, comme je le décris là, peut paraître un petit peu cérébral, un petit peu basé sur des procédés littéraires, un petit peu abstraits, un petit peu etc. En fait, et pas du tout. Je crois qu'il est bien incarné. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il est incarné donc par un casting assez prestigieux. Isabelle Huppert, Pierre Ninet, Vincent Cassel, Virginie Efira, ça fait quand même du monde. Et quand on voit des films avec des castings pareils, enfin moi personnellement, je crains souvent que les acteurs fassent écran par rapport à leurs personnages. C'est-à-dire qu'on finisse par ne plus voir les personnages, mais les acteurs qui les incarnent. Eh bien, c'est peut-être une preuve de la qualité des acteurs que je viens de citer que non, leur prestige d'acteur s'efface pour l'incarnation de personnages tout à fait convaincants. Je pense en particulier à Virginie Efira qui, après Les Enfants des Autres, par exemple, ou Revoir Paris, est une fois de plus tout à fait étonnante, avec une palette de jeux étonnante de la fille tout à fait anodine à la personne en quelque sorte bouleversée par ce qui lui arrive, et c'est tout à fait crédible toujours. Et alors le thème du film qui, comme je le disais, peut paraître un peu littéraire, un petit peu abstrait et abscon, ne l'est pas tant que ça, parce que c'est un film qui porte sur la manière dont peut se mêler la fiction et la réalité. C'est-à-dire que progressivement, alors au départ, c'est la fiction écrite par Isabelle Huppert qui s'inspire de la réalité qui lui fait face, mais bientôt son histoire va être reprise par le jeune qui l'aide à déménager, et lui il va vouloir en savoir un peu plus, donc il va commencer à pénétrer dans l'histoire décrite pour continuer la description. Ce faisant, il va commencer à avoir un petit peu d'influence sur la vie réelle qui va changer, et donc changer également la fiction en retour. Et cette espèce de va-et-vient entre la réalité et la fiction, qui encore une fois peut paraître extrêmement abstrait, est en fait au contraire très concret. On voit des mécanismes très précis, très concrets se mettre en jeu pour faire se rencontrer la fiction et la réalité. C'est la jalousie, c'est le désir, c'est la recherche de procédés littéraires qui tour à tour vont faire jouer l'une sur l'autre la réalité et la fiction. J'ai trouvé que c'était intéressant, et au moment où sort le dernier Almodovar, Autofiction, qui porte sur des thèmes semblables. Alors, un film qui, j'en avais parlé la semaine dernière, est lui justement assez intellectuel, assez abstrait. Ça, à comparer, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. L'abstraction et la prise de tête n'est pas forcément là où on croit. Voilà. Enfin, bon, ça c'est un avis très très subjectif et très très personnel. Mais en tout cas, j'ai rencontré pas mal de spectateurs de histoires parallèles. Et qui m'ont confirmé dans mon goût un peu inattendu pour ce film, qui encore une fois, j'avais certaines préventions qui a été déjouée par ce film, donc d'Abgar Faradi. Décidément, je n'arriverai pas à sortir du premier coup le nom de ce réalisateur. Nous continuons donc avec un documentaire. Cette fois, il s'agit de L'Évangile de la Révolution, un documentaire de François-Xavier Drouet qui était venu le présenter mardi dernier.
Todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político.
Sim, a revolução, on arrive à comprendre un changement profond, radical même et rapide, alors j'aime la révolution.
Compañeros, ya estamos en el nuevo día. ¡Ya empezó!
Miren cómo nos hablan de libertad.
Hay una violencia institucionalizada que está provocando la cólera del pueblo.
Cuando nos atormenta y tormenta la autoridad.
Dios no es neutral. Está de parte de los pobres. Hay que ponerse de parte de ellos para que dejen de ser pobres.
Miren cómo nos hablan del pobre.
Marx, que diz que a religião é ópio do povo, é o mesmo que diz que a religião é um grito de protesto, é um grito de resistência.
Bolsonaro nunca mais! Bolsonaro nunca mais!
Voilà un son qui illustre presque de manière caricaturale les révolutions sud-américaines de langue espagnole, avec quand même un petit passage en brésilien, il m'a semblé reconnaître. L'évangile de la révolution, et oui, tout le paradoxe de cette union un petit peu inattendue entre la révolution marxiste et le message christique de l'évangile. Dans les années 70, quoi, en gros. Hein, c'est...
Oui, tout à fait. Alors, du coup, alors attention, parce que ce film-là, moi, je le trouve assez incroyable, parce qu'effectivement, le sujet est incroyable, et la mise en œuvre de son sujet est vraiment une réussite, moi, je trouve, entre images d'archives, interviews, ouais. Musique, tout, enfin, voilà, on est happé par son histoire, et c'est extrêmement intéressant. On apprend plein de choses.
Il dure 2 heures, mais apparemment, on s'ennuie pas.
Ah oui, on s'ennuie à aucun moment. Il faut parler parce que le sujet du film, c'est aussi ce sujet de la théologie de la libération, qui est quand même cette idée il faut quand même, on va dire, comme tu disais, c'est Ronald Reagan qui a dit ça, c'est que la théologie de la libération, c'est une intervention marxiste au sein de l'Église, voilà, une espèce d'entrisme, voilà. Ça part de quoi? De, effectivement, beaucoup de dictatures en Amérique du Sud, à un certain moment. Je fais un petit résumé de l'histoire pour vous comprendre un peu les gens.
C'est essentiel.
En Amérique du Sud, donc beaucoup de dictature, voilà, beaucoup de paysans et de pauvreté. Et à un moment donné, les prêtres qui sont sur place, au contact de cette pauvreté, vont prendre parti, on va dire. Et l'Église locale, je dis bien locale, va prendre parti parce qu'il y a des exactions, parce que le message de l'Église et la réalité du terrain, c'était extrêmement compliqué pour eux de cautionner ces deux idées en même temps. Voilà. Donc du coup, il y a eu beaucoup de prêtres finalement qui se sont engagés aux côtés des pauvres, pour les accompagner, on va dire, au quotidien, dans à la fois leur quotidien et à la fois dans leur lutte. C'est pour ça que vous avez sans doute souvent vu, quand on a des photos de l'époque, il y a toujours un prêtre qui accompagne. Ouais. Il n'est pas armé, mais il y a toujours un personnage d'un prêtre qui est présent souvent. Mmh. Voilà. Et ce personnage, il est là parce que évidemment, ils sont marxistes peut-être, c'est communiste. Après, je veux dire, l'histoire est faite par les vainqueurs, donc à un moment donné, voilà. Mais ils sont aussi très chrétiens. Il y a une vraie croyance en Dieu populaire qui est très très présente. Donc du coup, eux, ils accompagnent leurs ouailles là où ils sont, qu'ils soient dans la lutte ou dans la pauvreté, de la misère. Sauf que, évidemment, l'Église officielle était un peu en opposition, on va dire, était quand même plus proche du pouvoir que, voilà, que de ces prêtres. Donc il y a eu des, voilà, je vous raconte pas le documentaire, mais je vous invite à aller le voir parce qu'il va raconter, on va dire, tout un pan en fait de l'histoire de l'Amérique du Sud et mondiale, sous un éclairage évidemment qu'on n'a pas l'habitude qui a peu été exploré, quoi. C'est passionnant, voilà. Très bien documenté. Lui n'est pas croyant, il le dit à un moment donné, il n'est pas, voilà. Mais il avait été sensibilisé à l'époque par les révoltes du Mexique, le sous-commandant Marcos, vous vous rappelez, en 94, voilà, ce genre de choses qu'il avait avec qui lui travaillait aux côtés des indigènes. Et donc, du coup, là, il y a une vraie... voilà, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur ces révolutions et sur ces personnages. Et du coup, à la fois pour les gens, on va dire, qui sont, on va dire, entre guillemets, marxistes et qui sont sur ces théories-là, c'est un peu déstabilisant parce qu'on leur dit « Ah ben non, mais il n'y avait pas que du communisme comme on le connaît, il y avait aussi des croyants, enfin voilà, l'opium du peuple était là. » Et à la fois, vous avez les chrétiens qui se disent « Ah ben, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» C'est-à-dire pourquoi l'Église n'a pas soutenu, enfin voilà, de quel côté était l'Église. Voilà, du coup, c'est très très intéressant.
Je suis content que tu évolues et conclues d'une certaine manière parce qu'en t'entendant parler avant, je me disais qu'il y avait pas, dans cette histoire, il y a pas deux termes, il y a pas le marxisme et l'Église, il y a quatre termes en fait. Il y a deux façons de voir le marxisme. Et puis il y a deux façons de voir l'Église. Et d'une certaine, donc il y a l'Église du peuple qui est nécessairement du côté des pauvres, comme le Christ lui-même l'était. Et puis il y a l'Église que tu dis officielle, mais bon, qui a, enfin, l'Église au pouvoir finalement.
Bah après oui, les papes, je pense que tu vois Jean-Paul II, Benoît XVI, c'était pas des fervents, on va dire, défenseurs de la théorie de la libération, de théologie de la libération.
C'est clair. C'est pour ça que je dis qu'il y a pas deux termes, il y en a quatre. Hein, il y a deux églises et puis il y a aussi deux théories sociales, celle qui associe forcément le marxisme à une option sur la révolution comme opium du peuple. Et puis il y a aussi le marxisme qui est pratiquement une autre forme de religion et qui a finalement pas mal de points communs avec le message évangélique. Donc effectivement, il y a là un espèce de jeu, non pas à deux mais à quatre, et d'une certaine manière ça permet de comprendre pas mal de choses au passé, justement, de l'Église, à ses réformes successives, que ce soit Benoît de Nursie au VIe siècle ou Saint-François d'Assise, etc. Bah, c'est-à-dire, voilà.
Bah, l'Église, de toute façon, a assez vague, ses mouvements. À un moment donné, voilà, l'Église prend, on va dire, du pouvoir. Il y a toujours, et parmi les ordres de l'Église, il y en a un nouveau. Il y a les dominicains à une époque, après, ça a été les franciscains qui essayent de revenir auprès des pauvres gens. Et puis, on va dire, les anciens, on va dire, protagonistes qui défendaient, ou ordres qui défendaient les plus pauvres, une fois qu'ils ont gagné, on va dire, au sein de l'Église, c'est eux qui deviennent les plus riches, et il y a toujours un nouveau, voilà, il y a une espèce de chemin comme ça dans l'histoire de l'Église qui est...
C'est un peu compliqué que des révolutions comme celle-là, mais disons, en gros, on voit bien qu'il y a toujours une Église du côté des autorités et une Église du côté des gens.
Mais là, on le voit bien dans le film, ça fait extrêmement peur, en fait.
Qu'est-ce qui fait peur ?
Eh bien ça, que l'Église et la Révolution se mettent ensemble. Ça fait extrêmement peur au pouvoir, bien sûr.
Ben c'est extrêmement troublant. Mmh. C'est quand même un peu... C'est un petit peu de ça que le Christ est mort. Je veux dire, nous allons continuer à notre investigation dans le cinéma des écrans du Sud Ardèche avec l'objet du délit, justement.
C'est les noces, c'est joyeux. Ça doit être léger, ça doit chuchoter, ça... Et puis après, ça explose.
Tu avais fait tes premières noces avec moi il y a 30 ans.
30 ans déjà, oh mon Dieu.
Vraiment toute nouvelle aventure pour moi parce que c'est ma première mise en scène. Allez-y.
Vous assurez le poste de première assistante.
Moi, je sais pas, là, si je...
Il faut bien une première fois, en tout cas, c'est ce que je me suis dit à moi-même. Hein, Samir, elle est capable.
Oh, bah moi...
Ah bah oui.
Je sais pas.
Bah oui, c'est la première fois pour tout le monde, c'est parfait. C'est parfait, c'est la preuve que ça va bien se passer.
Stop, là, stop, stop.
Arrête de hurler, Cora.
Mais c'est toi qui hurles.
C'est juste pour qu'on voit la sororité de la scène.
Bon, on va pas y passer une heure ici.
Elle y connaît rien.
C'est leur principe à opérer à des fleurs peines des gens connus qui n'y connaissent rien.
Je me stresse. J'aime pas quand elle me touche.
C'est-à-dire ?
Non, rien.
Mais si, vas-y, dis.
C'est la situation aussi.
Agressée.
Ça m'étonne pas de lui.
Ah bah voilà.
Mirabelle veut inscrire dans la mise en scène une image forte du patriarcat.
Donc il en faut deux en plus.
Et deux, et plus quoi ?
Deux bites ! Elle veut plus de bites !
Si vous voulez bien vous adosser à la colonne de gauche, par exemple.
Vous voulez que je casse la colonne ?
Non mais on peut pas continuer comme ça, faut qu'il soit remplacé, c'est tout.
Et on est quelques jours de la première.
Moi j'ai les yeux fixés sur mon conducteur, donc j'ai rien vu.
De toute façon, il s'agit pas de toi, Igor.
Je vais te ramener, d'accord ?
C'est à cause de MeToo que les mecs ils osent plus conclure.
À cause de qui ? C'est incroyable ce qu'ils font, les chanteurs. Ces voix qui sortent de leur corps.
Le vieux monde est mort, il faut s'y faire, voilà.
T'as quelque chose à te reprocher ?
Non, 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 pas du tout, non. Non, enfin...
Voilà, bon, tout est là, non ? Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher ? Non, non. Alors, René, ce film d'Agnès Jaoui ?
Alors, bon, l'action, l'objet du délit... Alors, l'action du film se déroule dans les coulisses de la production de l'opéra Les Noces de Figaro, de Mozart. Alors, bon, tout semble en place, les acteurs, chanteurs et tout le staff technique ont été sélectionnés, les répétitions ont commencé lorsque les tensions montent, quand une accusation d'agression sexuelle éclate. La zizanie s'installe, met la production en péril et force chacun à prendre position. Les conflits d'opinion et de génération se font jour et la réalisation du projet est remise en question. Voilà. Alors, le sujet même du film était pour moi un gage de réussite. La production d'un opéra ou d'un film, c'est porteur. Enfin, on pense à Chantons sous la pluie ou au chef-d'œuvre, ou un des chefs-d'œuvre de Fellini, Prove et l'orchestre, où on voit les membres d'un orchestre se déchirer entre eux pendant les répétitions. Ce genre de sujet offre un grand nombre de situations comiques, dramatiques, qui peuvent donner du rythme, du dynamisme à un film. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Les scènes potentiellement comiques sont mal exploitées, assez prévisible. Je pense à une scène où un personnage très désagréable, mais qui a mis beaucoup de fric dans le projet, veut rejoindre la fille qui convoite dans son lit. Alors on le voit arriver là, on voit qu'il y a quelqu'un de couché dans le lit, on sait très bien que ça va pas être la fille, on le voit venir gros comme une maison et effectivement quand il se met à la toucher, l'autre lève la couverture et c'est un vieux monsieur qui éclate de colère. Voilà, ça tombe complètement à plat quoi, c'est pas au point. Et il y a beaucoup de scènes comme ça qui se veulent drôles, qui ne le sont pas. Donc on rit pas beaucoup en fait. Je ne parlerai pas des décors avec ces phallus de 2 mètres de haut qui envahissent le plateau et dont il est beaucoup question, laborieusement question. Il y a un moment où on voit une scène, il y a 2 mecs qui promènent ces phallus sur un chariot, on voit pas pourquoi. Il y a une des membres du staff technique qui se casse une jambe en essayant d'en décharger un.
Il y a beaucoup question de membres,
c'est un film très membré. Oui. Voilà, ils auraient dû le démembrer un peu là, je trouve. Tout ça est lourd. Et là, comme si les auteurs du film avaient senti que le film allait manquer de peps, manquer de rythme, manquer de tension dramatique, en plein milieu du film, on a ce conflit un peu collé, là, qui sort comme un champignon après la pluie, autour d'un des acteurs qui a eu les mains un peu trop baladeuses sur une des chanteuses. Alors on comprend pas trop, est-ce que c'était scénarisé, ça, il lui met la main sur le sein, là. Est-ce que c'était scénarisé, est-ce que ça l'était pas? On comprend d'autant moins que celle qui est la metteuse en scène est complètement nulle. Elle a été choisie parce que celui qui couche avec elle a mis beaucoup d'argent dans le projet. Voilà, alors effectivement... De fait, ce conflit va relancer le film qui était en train de s'enliser. Bon, alors on peut faire un film sur le harcèlement sexuel, mais je pense qu'on ne devrait pas instrumentaliser ça pour venir au secours d'un film qui ne trouve pas ses marques, qui ne parvient pas à trouver son propre dynamisme à partir de son sujet, qui ne parvient pas à exploiter le potentiel pourtant évident de son sujet, sujet en or. Je trouve que c'est un peu racoleur. Voilà. Et je pense que c'est certainement une tendance du cinéma aujourd'hui, ça. Il y a des thèmes dont on parle beaucoup. Bah, on se dit, on va mettre ça dans le film, ça fera venir les gens, quoi. Mmh. C'est une tentation. Il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est aussi un produit, quand même. Hein. C'est aussi quelque chose qui essaie de se vendre. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses intéressantes dans ce film. Et d'abord, les personnages, qui pour la plupart sont très attachants. Je pense en particulier au personnage de Samir, le régisseur, à la chanteuse interprétée par Aïdara, qui incarne un personnage agressif à souhait, qui apporte beaucoup au film, ou encore Agnès Jaoui dans son rôle d'une chanteuse vieillissante qui essaie d'apaiser les choses, d'arrondir les angles et qui crée une dynamique avec Aïdara, tellement elle s'oppose, façon intéressante, ou encore à l'acteur italien Vincenzo Amato, celui qui est l'objet du délit, si j'ose dire, qui cabotine à souhait, ou encore à Lucy Gallo, la première assistante dans le film, qui joue le rôle de la première assistante et qui est probablement le personnage le plus attachant du film, avec lequel le spectateur s'identifie spontanément. Voilà, il faut dire aussi un mot sur les décors, très réussis, Phallus mis à part. Le film ayant été tourné au château de Lacoste, dans le Vaucluse, château qui appartenait au divin marquis, le marquis de Sade, qui n'avait absolument rien de divin d'ailleurs, ou dans les environs. Il y a une bonne partie du film qui est tournée dans une carrière abandonnée ou désaffectée, et ça c'est très bien. Voilà, il me semble qu'entre le sujet, les personnages, les décors et bien sûr le plaisir d'entendre de nombreux extraits de la partition de Mozart, il y avait tout pour faire un bon film. Alors ça reste un film où on peut prendre un certain plaisir, moi je ne me suis pas ennuyé, mais on sort un peu déçu. Je pense que c'est un film qui passe à côté de son sujet, qui nous laisse sur notre faim. C'est un film dont on aurait pu attendre beaucoup mieux. Ouais. Voilà.
Moi, je crois que j'irai voir ça quand même, parce que Agnès Jaoui, dans un film sur le théâtre, le chant lyrique et le cinéma indirectement, je crois que ça peut valoir quand même le coup d'œil.
Enfin, c'est pas un film. Non, encore une fois, c'est un film qui se regarde. Il est un peu long, il dure 2 heures. Non, c'est simplement.
L'instrumentalisation
c'est
un peu.
C'est l'instrumentalisation essentiellement de l'agression sexuelle qui me paraît racoleuse. Il y a ça, il y a quand même des fautes de scénario que je trouve assez graves. Je vois pas comment on peut imaginer imposer une metteuse en scène totalement incompétente sur un projet qui coûte si cher.
Millions, ouais.
Ça tient pas debout, je veux dire. On peut pas faire ça, quoi. Il faut savoir faire, quoi. Surtout diriger des personnages qui peuvent être aussi caractériels. Je veux dire, c'est pas un film de patronage, le montage d'un opéra. Donc il y a quelques fautes qui sont quand même lourdes. Et puis, il y a une autre chose quand même. On sait combien il est difficile de faire de la comédie. C'est tellement difficile. Tout a été fait. Je veux dire, je pensais l'exemple du lit là, que je citais. Ouais. Mais ça a été fait 50 fois, ça.
Ouais.
C'est une tarte à la crème. Alors, autrefois, dans les années 50-60, on avait des acteurs qui étaient intrinsèquement comiques. Bourville, De Funès et d'autres. Fernandel. Et bon, c'était gagné à tous les coups à travers leur langage corporel, même s'ils n'étaient pas toujours au service de grands films. Aujourd'hui, on n'a pas de très grands acteurs comiques. Il y a Poulvord, peut-être, oui, bon, mais là, il n'y était pas, Poulvord. Ce n'étaient pas des acteurs intrinsèquement comiques dans des situations faites et refaites. Alors, tu parlais de Jaoui et de ça, je trouve que, au niveau de ça, elle a fait mieux. Hein.
Oui, je comprends, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Bon, nous nous acheminons tout doucement vers la fin. Nous avons parlé des rendez-vous autour de 5 secondes, le film italien. Il y a des rendez-vous cinéma d'animation aussi à l'USAS, dimanche 31 mai.
Alors oui, on a les films jeunes publics qu'on propose. On a évidemment un film le matin à l'USAS et l'après-midi à Tueil pour le jeune public.
Voilà. Quel film ?
Des films d'animation, donc il s'agit de Edmond et Lucie et puis de La Grande Révasion.
Voilà. Alors, juste un petit mot sur mercredi prochain à l'Abom en musique. On repasse le très beau documentaire Nous l'Orchestre. On avait reçu le réalisateur Philippe Béziat à Lussas pendant le printemps du doc. Et du coup, là, on représente le film. C'est le festival de l'Abom en musique. Et donc, du coup, en partenariat avec eux, vous pouvez voir dans ce cadre-là, Nous l'Orchestre à l'Abom.
Donc, l'Abom en musique a déjà commencé
Je crois que c'était hier soir. Hier soir, il y avait déjà quelque chose. Et ce week-end, il y a des. Voilà. Oui, voilà. C'est cette semaine.
Pour ne pas nous embrouiller, Nous l'Orchestre à la Baume, mercredi 3 juin à 20h, un très beau film sur l'interprétation d'une œuvre musicale par un orchestre symphonique. C'est effectivement très très beau. Voilà, il est temps largement de nous séparer. Merci Julien, merci René et surtout merci Sylvain qui réalise tout ça. Ciao, ciao.
Au revoir.
Qui est notre metteur en scène, mais lui il sait faire.
Oui.
Voilà, on va arriver ça.